Chronique du dessin, roman graphique. Bonjour à toutes et à tous. Deux chefs-d'œuvre aujourd'hui dans les chroniques du dessin. Commençons tout de suite par Le Champ des possibles de Véro Cazot au scénario et d'Anaïs Barnabé au dessin. Le thème du virtuel est relativement peu traité, et en tout cas, c'est un des thèmes essentiels de ce champ des possibles. Véro Cazot va, à travers la relation amoureuse qui s'est créée, c'est un véritable coup de foudre professionnel qui a eu lieu entre Marsu et Tom, qui se sont rencontrés dans un congrès d'architectes au bout du monde. Tom, qui achète des droits d'utilisation virtuelle d'habitations remarquables, fait découvrir à Marsu, grâce à un casque de réalité virtuelle, quelques endroits paradisiaques. Marsu et Tom vont entamer une relation amoureuse dans ces mondes virtuels. Dans la vie réelle, Marsu a un compagnon, Harry, qu'elle aime profondément et qu'elle ne veut absolument pas quitter. Véro Cazot va ainsi traiter du virtuel en montrant comment il peut investir nos vies. Elle va l'imaginer de façon plutôt remarquable, puisque de nouvelles espèces vont pouvoir être créées dans ce monde, une possibilité aussi de procréer, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance. Le casque virtuel va être un premier moyen pour l'investir, et puis Marsu va se faire mettre un implant pour pouvoir y aller avec une très grande facilité. C'est une façon aussi de dire que on pourrait fantasmer notre quotidien dans un monde chaotique où l'effondrement a eu lieu. Eh bien, on serait dans nos petits studios complètement transformés grâce au casque de réalité virtuelle, où on vivrait dans des maisons paradisiaques dans un pays où l'effondrement n'aurait pas eu lieu. Il y a, bien au-delà de cette écriture sur le virtuel, un questionnement sur l'amour et le polyamour. La relation entre Marsu et Tom, deux architectes qui se déploient dans le virtuel, n'est pas traitée avec les clichés habituels de l'adultère. Véro Cazot balaye ces stéréotypes des fictions romantiques ou moralisatrices. Il y a un récit où la parole a une intensité, a une précision, une nuance, elle est chargée de cet amour qui existe entre les différentes personnes. L'image de l'homme aimant, l'image de l'homme amoureux en ressort beaucoup plus grandie et avec beaucoup plus de dignité. Le livre présente deux esthétiques pour montrer la réalité de ces deux mondes. Anaïs Barnabé va tout de suite sur la couverture les présenter. À gauche, sur le visage de Marsu, on a la représentation du monde réel avec une couleur aquarellée et un dessin au trait. Et puis sur la droite, celle de la réalité virtuelle traitée au crayon de couleur avec un foisonnement dans cette mise en couleur. Il y a une façon également de mixer ces deux esthétiques pour montrer que cette réalité virtuelle va beaucoup plus marquer nos espaces quotidiens et les imbriquer les uns dans les autres et sortant simplement d'une vision caricaturale et dichotomique de ces deux mondes. Il y a une façon et une qualité dans la mise en scène pour garder une complète lisibilité qui fait que ce livre va véritablement changer l'approche habituelle dans cette écriture. nous sommes au-delà de ce qui est habituellement traité lorsqu'on parle de ces mondes-là. Et c'est vraiment la sensibilité féminine, aussi bien de Véro Caso que d'Anaïs Bernabé, qui fait que le champ des possibles prend une autre dimension et va véritablement marquer la bande dessinée d'aujourd'hui. Le champ des possibles de Véro Caso au scénario et d'Anaïs Bernabé au dessin est publié par les éditions Dupuis dans la collection Grand Public. Les 128 pages de ce récit sont au prix de 23,50 € et le livre a été imprimé en Belgique. Poursuivons avec le premier tome du diptyque de Brecht Evans, Le roi Méduse. Le livre commence certainement par les plus belles pages sur la transmission. Cela démarre dès la page 1 avec ce texte « Avant, j'étais faible » et on voit un enfant sur l'image d'une échographie. À la page, à la planche 268, le fils Arthur va dire « Mon père m'a enseigné énormément de choses, vous savez, je suis formé pour faire face à toute situation de crise. » Dans ces premières pages, le père va se retirer du monde qu'il considère comme chaotique et son fils Arthur va rechercher à créer un lien avec ce père en lui amenant des dessins, en essayant de rentrer dans le bureau dans lequel il s'est isolé et petit à petit son père va repérer quelques dessins et un jour il va prendre l'ensemble des dessins, les afficher et se rapprocher de ce fils. C'est un des axes très forts de cette narration, c'est cette relation père-fils et comment l'absence du père peut être vécu de façon extrêmement violente. Il y a un récit qui est écrit et narré par Arthur lui-même, enfant, qui voit en grandissant le monde à travers les yeux de son père, c'est-à-dire en s'imaginant un monde hostile et violent, menacé par un vaste complot où il faut se méfier de tout. L'école, les voisins, les médias, les amis. Claquemurés dans leur maison, transformés en citadelle, le père et le fils s'entraînent pour le grand combat à venir contre les forces du mal. Quand le père disparaît mystérieusement, Arthur, 10 ans, doit se débrouiller seul pour le retrouver. Il y a donc dans Le roi Méduse cette façon de représenter, de fantasmer le monde qui est aussi générée par cette présence du père qui est plutôt immature et comment Arthur va lui acquérir une très grande maturité tout au long de ce récit. Ce monde chaotique est représenté par les dirigeants qui seraient ceux qui le mènent à sa perte et les alliés qui sont ceux qui vont pouvoir combattre et résister à cet effondrement du monde. Ce n'est en rien un récit survivaliste comme le résumé aurait pu le faire penser, mais il y a vraiment un récit qui a de multiples lectures. On pourrait en poursuivre ces lectures comme cela et montrer comment l'imaginaire aussi s'invite en permanence tout au long de cette histoire et déconstruit et désamorce la lecture survivaliste du récit. Il y a notamment cette relation père-fils, cette absence du père, qui est aussi une des lectures essentielles de l'histoire. Il y a cette façon dont l'imaginaire va marquer le développement d'Arthur, qui est d'une très grande précision, d'une très grande maturité, qui fait face au monde et qui va s'inventer aussi des personnages comme celui d'Anémone le pirate qui sera un véritable père de substitution. Avec Brecht Evans, on a une mise en image qui change de ses albums précédents, de ses livres précédents, puisque nous avons toujours ce traitement de la couleur d'une même précision, mais avec beaucoup plus de grandes images, moins d'images par page, toujours cette absence de traits de contour, de traits de cases tracées, et qui donne au dessin la puissance de la couleur. Le dessin est couleur, et la couleur est dessin dans l'œuvre de Brecht Evans. Nous avons constamment cette précision qui va passer par exemple par les yeux d'Arthur dessinés avec deux points. Son père n'a pas d'yeux et qui crée déjà de suite cette distinction, cette différence, cette difficulté de communication. Peu d'adultes ont des yeux dans ce récit. Certains proches vont les acquérir, mais dans l'ensemble, ce sont les yeux d'Arthur, et à travers ces yeux-là, que nous voyons son monde. Les pages, les grandes images, vont être tout à fait remarquables, et on est constamment ébloui par ces pages dont on n'a jamais l'impression de vivre, d'avoir lu d'équivalent, avec cette précision constante dans cette capacité à dessiner avec de la couleur, dans la capacité d'utiliser toute la gestuelle et toute sa finesse, même en étant principalement éloigné des personnages avec des vues assez larges, où on a vraiment des personnages qui vont être rassemblés dans le blanc de la page. C'est un livre dont on aura envie et dont on a déjà envie de découvrir la suite, qui va marquer là aussi l'écriture en bande dessinée, et ce dernier livre de Brecht Evans est un chef-d'œuvre. Le Roi Méduse, tome 1 de Brecht Evans, est traduit par Brecht Evans et Vladimir Anselme. C'est publié par les éditions Actes Sud. Les 288 pages de ce récit sont au prix de 32 €. Nous finissons en musique avec Claude Besson.